avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pour la deuxième fois en deux jours, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus par téléphone sur les réponses à donner aux attaques chimiques de ce week-end contre les habitants de la ville de Douma, en Syrie. Les États-Unis font planer la menace d'une intervention militaire alors que les débats patinent au Conseil de sécurité de l'ONU. Analyse dans un instant.
Et puis elle a une également le calme, peut-être trompeur, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Risque de radicalisation après l'expulsion et la destruction de plusieurs sites hier. Nous serons sur place dans ce journal.
Emmanuel Macron veut réparer le lien entre l'Église et l'État, un lien qui s'est abîmé selon le chef de l'État. Il a prononcé un discours fleuve hier devant la conférence des évêques à Paris et appelé les catholiques à ne pas rester au seuil de l'engagement politique. Le gouvernement vient de lancer une nouvelle génération d'emplois francs sous forme expérimentale. Quelles sont les chances de ce succès? Ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, la question du jour. Catherine, soutien à la grève SNCF, les enquêtes d'opinion disent-elles tout et leur contraire? On posera la question à Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive.
Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait se réunir de nouveau aujourd'hui sous la pression des États-Unis pour voter en faveur ou non d'une enquête sur Douma, cette ville située près de Damas, cible d'attaques chimiques ce week-end. 48 morts au moins, tollé international après la diffusion d'images insoutenables de corps d'enfants et de femmes sans vie, écume blanche à la bouche. Mais en attendant donc cette nouvelle réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, les 15 pays membres réunis en urgence hier et dans un climat très tendu n'ont pas réussi à aboutir un consensus, Marco Voltaire.
3 heures de réunion et des discours fleuves pour des échanges avant tout violents et à charge. Voilà ce que l'on peut retenir de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité. La représentante américaine Nikki Haley a accusé la Russie d'avoir du sang d'enfants syriens sur les mains, d'avoir été complice de l'attaque chimique à Douma.
We have reached the moment.
Le moment est venu où le monde doit voir que justice est rendue. L'histoire se souviendra de ce jour, comme de celui où le Conseil s'est acquitté de son devoir, ou au contraire, comme le jour où il a démontré son échec total. Quoi qu'il en soit, les États-Unis vont réagir.
Hier soir, aucun texte n'a pu être voté à l'ONU. Washington, Paris et Londres voudraient une enquête et un mécanisme qui permet de sanctionner les responsables. Pour la France, il n'y a pas de doute, c'est le régime syrien qui est l'auteur de l'offensive de ce week-end.
Seules les forces armées syriennes et leurs services ont le savoir-faire nécessaire pour développer des substances toxiques aussi sophistiquées et avec ce niveau de létalité. Et seules les forces armées syriennes et leurs services ont un intérêt militaire à leur utilisation.
François Delattre a lui aussi insisté sur le rôle de la Russie, mais pour Moscou, les images de Douma sont une mise en scène, un prétexte pour aller frapper la Syrie.
Marco Voltaire à New York pour France Culture. Faute d'accord donc hier à l'ONU, Donald Trump a répété qu'il était prêt à répondre avec force au régime de Bachar al-Assad et à ses alliés après l'attaque chimique donc de ce week-end à Douma, près de Damas. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Catherine.
Deuxième coup de fil en moins de 24 heures hier entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les présidents américains et français ont réaffirmé leur souhait d'une réaction ferme de la communauté internationale. Alors Éric, pourquoi donc la France et les États-Unis pourraient-ils agir militairement et dans quel cadre?
Alors pour le moment et en dehors de tout mandat onusien ou même de toute résolution qui au moins condamnerait l'attaque chimique sur Douma, l'action militaire éventuelle des Américains ou des Français, voire des deux ensemble, se déroulerait en dehors de tout cadre. C'est ce qui s'était passé l'an dernier après le bombardement à l'arme chimique de Khan Cheikhoun. Deux projets de résolution avaient fait chou blanc aux Nations Unies du fait du blocage russe. Moscou avait même lancé son propre projet de résolution, histoire d'en diluer encore plus les termes. Au bout de 48 heures de tergiversation onusienne, les États-Unis avaient décidé unilatéralement de représailles militaires contre la Syrie de Bachar el-Assad, bombardant aux missiles de croisière la base aérienne de Shayrat, d'où étaient partis les avions responsables du bombardement de Khan Cheikhoun. C'est à nouveau ce qui pourrait se passer, avec cette fois une coordination avec les Français. Si une ou plusieurs frappes militaires sont décidées, ce seront probablement les navires lance-missiles américains présents en Méditerranée orientale, il y en a deux de ce type, et les avions français opérant dans la région, qui lanceront leurs vecteurs, et ce, sur des cibles syriennes soigneusement choisies et de valeur probablement plus symbolique que militaire. Mais on n'en est pas encore là, visiblement. Ce mardi, les États-Unis présenteront une résolution aux Nations Unies demandant la création d'un mécanisme d'enquête internationale sur l'usage des armes chimiques en Syrie. En l'état, la Russie s'y oppose, pour le moment. Si Moscou met effectivement une fois de plus son veto à l'adoption de ce texte, il sera sans doute alors temps pour Washington et Paris de lancer leurs représailles.
Éric Biégala, merci pour ces précisions et en attendant donc la voie diplomatique ou bien une intervention militaire des États-Unis et de la France en Syrie, la Russie, elle, a déjà menacé de représailles. Lui joue la carte de l'apaisement face aux marchés financiers sous la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis de Donald Trump. Le président chinois Xi Jinping a promis ce matin une nouvelle phase d'ouverture économique pour son pays, davantage d'importations en Chine et une meilleure protection de la propriété intellectuelle. Que se cache-t-il derrière ces propos rassurants? Analyse à suivre dans le journal de 7h30. Donald Trump, furieux par ailleurs sur le plan intérieur, le président des États-Unis a laissé éclater sa colère hier à l'annonce d'une perquisition du FBI dans les locaux de Michael Cohen, son avocat personnel, l'homme qui a payé une actrice de film X pour taire une liaison présumée avec Donald Trump. C'est une véritable honte, c'est une attaque contre notre pays, a déclaré le président américain en réaction à cette spectaculaire perquisition.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. L'Assemblée approuve le principe du changement de statut de la SNCF.
Au quatrième jour d'une grève toujours très suivie des cheminots et avant une reprise très progressive du trafic prévue aujourd'hui, les députés ont donc approuvé hier le principe d'une nouvelle organisation de la SNCF en société nationale à capitaux publics à partir du 1er janvier 2020, comme le proposait un amendement du gouvernement. Les députés de gauche et les insoumis notamment craignent une privatisation. Fantasme, a répondu la ministre des Transports Elisabeth Borne hier. La question du statut des cheminots également débattue à l'Assemblée nationale. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. Deuxième jour de l'opération d'expulsion à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pas de heurts pour l'instant, contrairement à hier, mais les occupants ont renforcé les barricades sur certaines routes de la ZAD. Hier, 13 squats ont été démantelés par les gendarmes mobiles et l'on craint désormais une radicalisation des zadistes. Risque de radicalisation après la destruction de la ferme des Sans-Noms, un lieu présenté comme pacificateur au sein de la ZAD, Véronique Rebérotte.
En détruisant la ferme des Sans-Noms, située pourtant très en retrait de la route des Chicanes, où les gendarmes mobiles sont positionnés en force depuis hier, en détruisant un lieu emblématique, ouvert au dialogue, sur le point de régulariser ses activités agricoles, le gouvernement aura réussi le tour de force de ressouder en quelques heures le mouvement d'opposition à l'aéroport. Un mouvement pourtant divisé depuis l'annonce de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, affaibli. Julien Durand avait pourtant pris ses distances avec le mouvement. Ce président d'association d'agriculture condamnait l'attitude jusqu'en boutiste de certains zadistes, mais là c'est l'attitude va-t-en-guerre du gouvernement qu'il condamne. Julien Durand.
Pour nous c'est la ligne rouge qui a été franchie, donc le lieu des Sans-Noms était pour nous quand même un lieu à ne pas toucher. L'intervention était faite pour rendre circulante et en sécurité la départementale, et avec une petite sécurité aux abords, mais pas aller jusque là. Et on ne sait pas aujourd'hui où ça peut s'arrêter, puisque les Sans-Noms étaient quand même assez loin de la route, et puis c'est des gens qui sont pas forcément réputés pour être des radicaux. Donc c'est pas tolérable, quoi.
Depuis hier, la CIPA et d'autres redoutent que l'État ne soit dans une entreprise de destruction systématique de tous les lieux de vie, ici sur la ZAD, sans distinction. Ils appellent à se mobiliser, manifester, à converger sur la ZAD pour s'opposer aux destructions.
Véronique Rebérotte, envoyée spéciale de France Culture à Notre-Dame-des-Landes avec Fabien Gosset à la technique. Le lien entre l'Église et l'État, il a été abîmé ces dernières années. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors d'un discours devant les évêques de France dans la sous la grande nef cistercienne du Collège des Bernardins à Paris. Emmanuel Macron a dit souhaiter les réparer, ces liens, une manière de donner sa vision de la laïcité avec un chef d'État garant de la liberté des cultes et une Église qui doit exister dans la société française, dans le débat public, que ce soit sur la question de l'accueil des migrants ou sur les débats sur la bioéthique.
On nous soupçonne parfois de jouer un agenda caché, de connaître d'avance les résultats d'un débat qui ouvrira de nouvelles possibilités dans la procréation assistée, ouvrant la porte à des pratiques qui irrésistiblement s'imposeront ensuite, comme la gestation pour autrui. Et certains se disent que l'introduction dans ces débats de représentants de l'Église catholique est un leurre destiné à diluer la parole de l'Église ou à la prendre en otage. Certains principes énoncés par l'Église sont confrontés à des réalités contradictoires et complexes qui traversent les catholiques eux-mêmes. Tous les jours, les prêtres accompagnent des familles monoparentales, des familles divorcées, des familles homosexuelles, des familles recourant à l'avortement, à la fécondation in vitro, à la PMA. C'est pourquoi, en écoutant l'Église sur ces sujets, nous ne haussons pas les épaules. Nous l'écoutons avec intérêt, avec respect, et même nous pouvons faire nôtre nombre de ces points. Mais cette voix de l'Église, nous savons au fond, vous et moi, qu'elle ne peut être injonctive. Elle ne peut dès lors être que questionnante.
Emmanuel Macron applaudi hier soir par les évêques de France à Paris, mais critiqué à gauche, notamment par l'ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, et par Alexis Corbière de la France Insoumise, qui estime que le chef de l'État a tenu, je cite, des paroles irresponsables qui soufflent sur les braises de tous les communautarismes religieux. D'autres interrogations sur Twitter sur l'accompagnement supposé de l'Église des familles monoparentales ou homosexuelles. 2 ans après l'attentat de Magnanville, qui a vu un couple de policiers assassinés sous les yeux de leur fils de 3 ans, un nouveau coup de filet hier dans les Yvelines. 6 personnes ont été placées en garde à vue, dont une policière, ex-membre du syndicat Alliance, et sa fille, présentée comme radicalisée. Les enquêteurs cherchent à savoir quel rôle ces personnes ont pu jouer dans la commission des faits. En clair, si les interpellés ont pu aider le tueur, Larossi Abala, à choisir ses victimes et à trouver leur adresse. Comment préparer son bac ou son brevet des collèges lorsque des bagarres rythment les journées de cours? La question des violences à l'école continue de mobiliser élèves, parents et enseignants autour d'un établissement en Seine-Saint-Denis, le lycée Utrio de Stein, occupé depuis vendredi dernier après une agression d'une rare violence. Mais ce qui se passe à Stein n'est pas un cas isolé. D'intenses affrontements ont également perturbé la vie de plusieurs collèges et lycées de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, Claire Chaudière.
À Aubervilliers, c'est en novembre que la situation a dégénéré. Des menaces sur les réseaux sociaux entre 2 collèges après l'exclusion d'un élève d'un des établissements. Yann Renoux est professeur au collège Jean Moulin et militant à Sud Éducation.
Ça s'est terminé avec un groupe de plusieurs dizaines d'élèves avec des marteaux qui se sont donné rendez-vous devant notre collège. Un enfant a été blessé. L'autre collège qui était en question, la semaine dernière, ils ont eu une attaque d'un groupe de jeunes avec comme résultat un élève envoyé à l'hôpital, d'autres qui sont tombés dans les pommes. Que ce soit à Aubervilliers, à La Courneuve, à Saint-Denis, à Stein, à Pierrefitte, Saint-Denis, on voit apparaître les mêmes phénomènes.
Et avec souvent les mêmes éléments déclencheurs, explique Wilfried Cerisier, membre de la FCPE 93.
Un désir de vengeance contre l'institution. On constate une montée des conseils de discipline avec exclusion. L'exclusion est vécue violemment.
Violence parfois moins spectaculaire, plus latente, mais qui empêche de faire cours normalement, note Romain Campergue, enseignant au collège La Courtille à Saint-Denis.
C'est une poudrière et j'ai l'impression qu'on se balade dangereusement avec une allumette à la main en attendant d'y mettre le feu, quoi. C'est dramatique.
Parents et professeurs pointent des équipes de vie scolaire débordées, incapables de prévenir la montée des tensions, des équipes qui n'ont pourtant pas diminué, martèle l'Éducation nationale, pour qui ces faits sont effectivement gravissimes, mais en grande partie liés à des situations propres à chaque quartier.
Plus de 400 enseignants-chercheurs de toute la France s'opposent à la réforme de l'accès à l'université. Dans une tribune publiée chez nos confrères de France Info, ces professeurs de toute la France affirment qu'ils soutiennent et qu'ils accompagnent les étudiants dans leur contestation de la loi orientation et réussite des étudiants et de Parcoursup depuis le début de leur mouvement. Une 15aine de sites bloqués encore hier et des violences qui émaillent le mouvement. L'ultra-droite pointée parfois du doigt. On y revient dans le journal de 7h30. C'est le choix de la rédaction de ce matin.